Dans un grand luxe, mais il le laisse libre. Il est comédien, il deviendrait ami inséparable. Il le fera présenter aux gens du cinéma. Ils pourront ainsi faire des films ensemble. Puis, seront tellement amis qu'ils vivront ensemble. Oui, s'imagine tout ça et ce sera merveilleux. Tout sera simple. Il aura un ami, fera des films, la vie dont il rêve. S'imagine leur rencontre dans la rue où il le croise et devient ami, ou sonne chez lui, eh bien, il le recevra. Là, il ne se voit plus laid, ni timide, ni gauche, mais bien sûr de lui et digne d'être aimé. L'amour transforme les gens. À force de rêver, il veut connaître son ami. Faire vraiment connaissance et faire des films. C'est aimant ce qu'il désire, qu'il y croit vraiment. Mais lorsqu'il revient à la réalité, il y a un hic. Comment rencontrer l'être cher? Il est sûr qu'il habite Paris. Toutes les personnes importantes habitent Paris. On ne les imagine pas habiter ailleurs. Mais Paris, c'est loin. Et puis, on ne peut pas y aller comme ça. C'est pas comme à Lyon. Pierre n'a pas à aller à son travail, à la maison, de la maison à la plage en Massé, et aller à la chambre des métiers. Et en plus, aller faire des courses aux prises uniques du Bachu pour aller chercher du sucre par 5 kilos, ne sait pas de se placer. Il fait tout à pied. Il ne connaît même pas les trajets des bus de Lyon. Alors aller à Paris, qui est à une éternité de Lyon, c'est pour lui avoir l'esprit, la fougue de Marco Polo. Et comme dit son père, il est incapable de se débrouiller tout seul, même de prendre le car. Pourtant, s'il veut voir son ami, il faut qu'il se déplace pour lui dire qu'il existe et qu'il a de l'amitié pour lui, qu'il peut compter sur lui et que même il lui donne sa vie. S'il le fait, s'il ne le fait pas, il ne saura jamais qu'il existe. Ce serait terrible. Il se dit, je vais à Paris. Et là, je le trouve. Comment? Il ne se pose pas les questions. Pour ça, il sait que Paris, c'est grand et qu'il y a du monde. Il ne s'en rend pas vraiment compte.
Faire un tour au bar de Télé Paris.
Et vous voici maintenant en communication avec Télé Paris, l'émission radio diffusée et télévisée de Jacques Chaban et Roger Ferral avec Jacques-Angelin et au piano François. Ah bon.
Merci monsieur.
J'ai reçu une lettre d'un téléspectateur qui me dit qu'il faut faire attention au style, un grand problème, le problème du style. Parce que quand on improvise, quelquefois, il est évident qu'il est difficile de trouver toujours le mot exact.
Et même le tonneur de phrase.
Quelquefois, même des incorrections, comme mot, un espèce ou une espèce, comme ça. Il faut faire un peu attention. Ouais.
Un dimanche à 13h, il voit une émission de Jean Lehin au-delà de l'écran, qui est le coulisse des émissions de télévision et la vie des acteurs, etc. Il y a un petit reportage qui montre une école spéciale pour les enfants acteurs. Il se dit qu'il doit fréquenter cette école. Mais il ne vient pas à l'esprit de prendre le nom de l'école, ni son adresse. Le pauvre Pierre est complètement déconnecté de la réalité. L'amour vrai rend aveugle, isole du monde. On ne le voit plus. et puis elle n'a que 16 ans, seule, en vivant son enfer. Peut-être s'il avait eu une personne à qui il ait pu dire ce qui lui arrivait, sa passion, son enfer, ça l'aurait ramené à la réalité. Il lui aurait dit qu'il n'aimait qu'une chose qui n'existe pas, une chimère du vent, qui doit se protéger, faire attention, qu'à force de se déconnecter de la réalité, on devient fou parce qu'on ne voit plus la réalité, et cela peut être très dangereux et vous faire faire des choses très graves. À soi et aux autres. Il y en a qui sont devenus des criminels en vivant dans leurs rêves qu'ils prenaient pour la réalité. Mais il n'y a personne à qui parler et ne parle à personne. Il ne viendrait pas à l'idée d'en parler. Alors, parce qu'il est au bord de la falaise et que rien ne le retient, le retient pour éviter qu'il se jette dans le vide. De toute façon, ceci est le prolongement de ce qui lui est arrivé à 10 ans, 10 ans plus tôt. S'il n'avait pas été violé, s'il était il avait au moins reçu de l'aide, sa vie aurait changé. Il aurait fait de bonnes études. Il serait encore étudiant et plus tard aurait une bonne situation. Il serait resté un fils ouvert et ses parents auraient eu d'autres rapports avec lui. Il aurait été ouvert, heureux, instruit. On aurait été fier de lui. Il aurait pu se faire des tas d'amis, filles et garçons. Mais à 6 ans, un geste et tout a basculé. On l'a jeté dans une spirale. Oui, une spirale. Et il ne peut s'en sortir, en sortir. Il est devenu cet être maigre, laid, timide, ignorant, tout de la vie et des études, renfermé sur lui-même, et pour sortir de son cauchemar, est obligé de rêver. Personne ne l'aime plus. On dit qu'il est bizarre, et même daltonien, ou fourbe. Pauvre Pierre. Son échec est prévu d'avance. Sa quête pour être heureux est vouée à l'échec parce que chimérique. Il n'est pas fourbe. Fourbe, ce sont les autres. Lui n'est que victime. Le voilà pris dans cette idée fixe qui malgré tout l'aide à vivre. Sans ça, il se serait peut-être tué, tué d'une façon incompréhensible pour les autres, pour un rêve. La mort d'un fou, alors Roméo et Juliette. Roméo s'est tué parce qu'il était fou. Cette pensée d'aller à Paris lui fait oublier son suicide et devient une idée fixe. Et tellement il y pense, plus il la croit vraie et se voit. C'est si simple dans un rêve. La réalité est autre. Mais lui, cela fait longtemps qu'il ne la voit plus. Depuis la découverte de cette œuvre, il vit dans un rêve. Il a une personnalité très forte, malgré ses pensées, il se surveille à chaque instant pour que cela ne l'empêche pas de travailler et d'être comme toujours. Personne ne fait attention à lui. C'est lui. Il est comme son ombre. Le livre, il ne le relit pas. On ne relit pas un livre comme ça de suite. Mais le voit, continue à voir les photos du film. Papier journal vieilli, mais il n'y fait pas très attention. Un jour, à la Chambre des métiers, il a comme sujet de rédaction compter un événement de la vie qui a compté pour une personne, une rencontre. Il décide, c'est de décrire les deux personnages. Lui devient le grand garçon et l'autre décide de montrer leur rencontre. Il a reçu une mauvaise note avec un gros point d'interrogation. Sans le savoir, il a fait comme le héros du livre qui a écrit l'ami idéal et a reçu une mauvaise note. C'est pas facile à raconter une histoire comme celle-là où il ne passe rien extérieurement, où tout est dans la tête. Donc, Pierre veut aller à Paris. C'est son rêve, il veut le réaliser. Il croit que tous ses désirs deviendront vrais. Qu'il suffit qu'il le veuille. Le peu de désirs qu'il avait jusqu'à maintenant ne cherchait jamais à les concrétiser. Ça ne lui venait même pas l'idée de le faire. Mais depuis qu'il aime, il est prêt à tout. Il a déjà réussi à avoir le livre. Maintenant, il veut voir la personne qu'il aime. Oui. Oui, parce qu'il veut qu'il soit aimé par la personne qu'il aime. Mais il ne voit pas que la personne qu'il aime n'est que l'image du personnage qu'il aime et qu'il n'est pas réel. Il ne voit pas la différence. Il ne se rend pas compte qu'il risque d'être déçu et peut-être que l'image est tout le contraire de ce qu'elle a représenté. Qu'il n'est peut-être pas un jeune garçon romanesque et qui ne pense qu'à jouer et courir les filles. Non, pour Pierre, l'imaginaire est devenu réalité. Il veut rejoindre ce monde qu'il s'est imaginé. Il réfléchit et se dit, pour y aller, il lui faut de l'argent. Il n'en a pas. Il veut partir un jour sans travail. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Regarde et vois que le jour de congé, c'est le 8 mai. Ce serait très bien. Sa mère et son père sont ensemble pour faire des courses. Il reste seul à la maison. Il décide c'est de chercher l'argent. C'est que sa mère met l'argent dans son armoire qui est dans la chambre. En 1964, on est payé tous les 15 jours et en liquide. Le chèque, c'est pour les riches et carte de crédit, c'est pas encore terminé. Inventé. Il entre dans la chambre de ses parents, ouvre l'armoire à glace à deux portes, D'un côté sa penderie, l'autre ses rayonnages. Là, il cherche entre les draps. Il trouve un vieux portefeuille en cuir marron usé. L'ouvre. Il y a des billets. Les pièces, c'est pour la boîte en fer à la cuisine. Il en prend un. Il ne sait pas combien coûte un billet pour le train. Il a pris un billet comme ça au hasard. Il remet le portefeuille sous les draps. Referme l'armoire et sort de la chambre. Le billet le cache dans sa poche. Il n'a aucun remords. Oui, aucun remords. Depuis l'âge de 6 ans, sa famille ne signifie rien. Juste ce méfait d'eux. Je dis que maintenant que la chose est faite, il faut aller jusqu'au bout. S'il ne l'avait pas fait, il en aurait été malade. Il en a assez d'être malade, de choses qu'il n'ose pas faire. Il aimerait mieux souffrir d'un acte qu'il a osé faire que de souffrir d'un acte qu'il n'a pas osé faire. Va à la cuisine, s'assoit sur une chaise, reste assis à la cuisine, sans rien faire, attendre que ses parents reviennent. Un peu inquiet, parce que s'ils savent qu'il les a volés, ça va être sa fête. Ses parents reviennent. Ils vont à la cuisine. Le retrouve. Sa mère, à peine arrivée, lui demande « Il ne s'est rien passé durant notre absence ?»« Non, rien. » Elle va à sa chambre pour se changer. Pierre est inquiet. Il a peur qu'elle découvre le poteau rose. « Non. » Rien. Dans la soirée, comme tous les jours, la mère prépare pour le laitier, c'est-à-dire mettre une berthe à lait en alu devant la porte de l'appartement et dessus la somme. Le laitier, ou plutôt le garçon laitier, qui est un jeune garçon de 14 ans, monte le lait. Il monte les étages, la plupart du temps à pied, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, avec une grosse berthe à lait et une espèce de louche doseuse. L'été, en plus du lait, il livre le fromage blanc. Imaginez-vous, un jeune de 14 ans, monter les escaliers avec une grosse berthe à lait, pleine de lait, plus une louche, sans compter les fromages blancs. Faisant ça toute l'après-midi. Attention à bien prendre l'argent et à bien doser le lait qu'on demande. Ce jeune, après 6 jours de travail comme ça, où sa journée finissait très tard. Il n'avait pas le temps de faire le con dehors, de boire de la bière, de fumer de la merde, de dégueulasser la ville, ni de flirter les filles. La mère donne au père la Berthalet. Tu lui mettras l'argent, on lui doit une semaine. Et le père s'exécute. Voilà, j'ai mis l'argent. Une fois que le lait a été livré, il faut de suite le faire chauffer pour éviter qu'il le tourne, même le faire bouillir. Le lendemain, Pierre est à la cuisine et attend sa mère parler à son père. Tu t'es trompé. Tu as mis un gros billet à la place d'un petit pour le laitier. Mais non, je t'assure. Oh, écoute, il n'y a que toi qui as pris de l'argent. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais je n'ai rien fait. Arrête! Maintenant, le mal est fait. Demande au laitier. Tu penses bien qu'il va dire que c'était un petit billet. On n'a pas de preuves. Tant pis. Laisse tomber. Mais la prochaine fois, fais très attention. Tu sais que l'on est juste. Pierre est dans ses petits souliers. Il a eu très peur, mais rien ne s'est passé pour lui. Personne ne pense que ce pourrait être lui, qui est un idiot, mais qui ne fait rien, donc ça ne peut être lui. Voilà, Pierre, avec son argent, qu'il cache bien dans sa poche, il se dit que bientôt, sa vie va changer. Il ne sera plus l'idiot, ni celui qui a fait et qui fait. Il deviendra quelqu'un, un cinéaste, et grâce à son ami, il vivra à Paris. Adieu l'usine, adieu ces gens vulgaires qui ne pensent qu'au sexe. Les jours passent, il sait qu'il doit le faire. Le soir, en prenant sa soupe, il dit à sa mère: demain, je travaille. Elle lui dit: bien. Ça lui paraît normal qu'il travaille un 8 mai parce que il a déjà travaillé un 11 novembre. Et puis, plus il travaille, plus il fait entrer de l'argent. C'est essentiel pour elle. Alors qu'il travaille pendant les jours de fête, c'est une bonne chose. De toute façon, il ne fait rien. Le soir, Pierre se couche comme d'habitude. Dans la nuit, il est angoissé. Regarde ses photos. Et se lève comme pour aller à son travail. Il se lève toujours seul et quitte la maison sans voir personne. Sort de la chambre pour aller à la salle de bain. Pour se raser avec un rasoir à main. puis va à la cuisine prendre ton petit déjeuner. Qui est préparé sur la table. Il lui reste plus qu'à se servir. C'est du lait avec de la chicorée. Le lait est froid parce qu'il ne sait pas se servir de la cuisinière à gaz et puis sa mère ne veut pas. La chicorée est en poudre. Il l'a mis dans un gros bol blanc. Mais sans sucre. En morceaux dans son lait et trempe le pain dans le lait. Il aime beaucoup le petit déjeuner. Des fois, il y met de la confiture. Après avoir pris son petit déjeuner, la gorge serrée tout de même, il retourne à la chambre pour s'habiller comme d'habitude. Comme s'il allait au travail. Mais il prend son cartable. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Passion intérieure, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.